Le journal Sébastien Logeni. Bonjour Sébastien.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous. À la une ce matin, 6 mois après l'affaire Lactalis, le gouvernement et les parlementaires tentent d'en tirer les leçons. Plusieurs propositions rendues publiques aujourd'hui, en finir avec les autocontrôles sanitaires et les dysfonctionnements lors des procédures de retrait. Plus de précisions dans un instant. L'après-mondial, la banlieue et les clubs de foot amateurs aimeraient profiter de la vague. Mais le plan du gouvernement et de la Fédération française de foot reste à ce jour insuffisant. Dans ce journal, l'insatisfaction des élus et des associations de terrain. L'invité du grand entretien de la matinale à partir de 8h20, Frédéric, l'architecte Christian de Pozenbark.
Qui vient de recevoir l'une des récompenses les plus prestigieuses du monde dans sa discipline. L'architecte est-il un artiste? Doit-on se passer d'architecte pour conduire plus rapidement plus de logements sociaux comme le souhaite le gouvernement? Pourquoi les Français n'aiment pas les tours? Existe-t-il encore des styles locaux ou bien l'architecture mondialisée s'est-elle standardisée? On vous attend sur franceinter.fr et au standard 01 45 24 7000.
Au programme également, des députés d'En Marche qui mettent la pression afin de voter la PMA pour tous rapidement. Un président américain qui dit l'inverse de ce qu'il voulait dire. Et à la fin du journal du cinéma avec un film syrien. Comment éviter un nouveau scandale Lactalis? C'était l'objectif de la commission d'enquête parlementaire, une enquête lancée il y a 4 mois. Après, on s'en souvient, la contamination à la salmonelle de plusieurs lots de lait infantile dans l'usine de Cran en Mayenne. Après des centaines d'auditions, et notamment celle du très secret patron de Lactalis lui-même, les parlementaires rendent aujourd'hui leurs préconisations. Radio France les a procurées. 2 propositions notamment à retenir. Mieux contrôler les contrôleurs sanitaires et créer une police de la santé alimentaire. Maria Melkurdi.
Principal axe de recommandation, un meilleur contrôle dans les usines. Éviter par exemple les conflits d'intérêts avec les laboratoires, faire en sorte que les contrôleurs soient aussi contrôlés et renforcer le rôle des autorités publiques. Indispensable selon Christian Hutin, président de la commission d'enquête parlementaire sur Lactalis.
Pour le moment, les industriels sont autoresponsables, c'est-à-dire qu'ils font des autocontrôles. Quand il y a un certain nombre d'autocontrôles qui sont positifs, rien ne les oblige pour le moment à les rendre publics. Nous, on va le demander, on va augmenter le nombre de contrôles faits par les services de l'État. Quelqu'un qui ne respectent pas la règle sur les autocontrôles. Il y a des sanctions qui seraient prévues et peut-être même probablement sur le chiffre d'affaires.
Autre problème majeur à résoudre, les procédés de retrait-rappel des produits. Dans l'affaire Lactalis, pas moins de 500 boîtes de lait contaminées sont restées en rayon pendant plusieurs jours alors qu'elles étaient officiellement retirées de la vente. Il ne faut plus que ça se reproduise, souligne Christian Hutin.
Ce que j'ai proposé, mais c'est une proposition personnelle, mais qui a été reprise par le rapporteur, à un moment ou à un autre, les services de l'État disent, voilà, tel produit, alors qu'il ne l'est pas, mais de manière aléatoire, tel produit ne peut plus être vendu et on contrôle le fait que l'hypermarché ou le vendeur n'en a plus en rayon. Il faut que la procédure de retrait-rappel soit immédiate.
La commission parlementaire souhaite aussi améliorer les dispositifs d'alerte en cas de crise sanitaire, mieux s'organiser. Il s'agit notamment de mettre fin à la guerre des polices, entre guillemets, entre les différents ministères, pour gagner en coordination, efficacité et rapidité.
Les révélations de Mariam El-Kurdi, invité de nos confrères de France Info il y a quelques instants, le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert a commenté ses préconisations de la commission parlementaire. Stéphane Travert qui soutient particulièrement une mesure, l'élargissement des autocontrôles.
Aujourd'hui, les autocontrôles qui sont positifs sont remis au service vétérinaire
de l'État.
Et nous avons choisi de faire en sorte que les autocontrôles qui portaient sur les produits allons rajouter les autocontrôles qui portent sur l'environnement du produit. La salmonelle Agona qui a été trouvée dans l'usine Lactalis de Cran était sur un balai. Et donc nous avons besoin d'élargir le champ d'investigation. La commission d'enquête préconise un certain nombre de choses. Moi je pense que tout ce qui va dans le sens où nous aurons des contrôles plus efficaces, où nous aurons des contrôles qui soient pertinents sur l'ensemble du territoire, où nous contrôlerons mieux, où nous travaillerons mieux avec les entreprises qui doivent nous donner aussi les résultats de leurs autocontrôles, ira dans le bon sens.
Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, et puis parmi les autres mesures envisagées par le gouvernement, la possibilité de recourir aux données bancaires personnelles des clients pour les alerter directement en cas de procédure de retrait ou de rappel.
France Inter, 8h04, 3 jours après la victoire des Bleus, la banlieue aurait-elle la gueule de bois?
Les élus de banlieue, en tout cas, sont déçus. Ils comptaient beaucoup sur ce triomphe pour remettre sur le devant de la scène la question de la politique de la ville. Le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard, doit notamment faire un point aujourd'hui en Conseil des ministres sur la stratégie du gouvernement dans les quartiers défavorisés. Mais pour l'instant, le le bilan est plutôt maigre. 30 000 stages de 3e confirmés hier soir par Emmanuel Macron ou l'amplification du testing dans les entreprises. Pas de quoi réjouir les députés franciliens. Écoutez le reportage à l'Assemblée nationale d'Estelle Schmitt.
Un millier de jeunes de banlieue invités à l'Élysée après le sacre de l'équipe de France de foot et hommage d'Emmanuel Macron à leur quartier. Mais deux jours plus tard, le compte n'y est pas, selon Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis.
On ne peut pas célébrer la vitalité des quartiers populaires un jour en finale de la Coupe du Monde et le lendemain être autant en deçà de ce qu'il faut faire. On essaye de parer avec du vent, ce n'est pas ça qui va arranger les choses.
Les élus de banlieue, tous bords confondus, veulent un vrai plan et plus de moyens, à l'image de François Pupponi, ancien président de l'Agence nationale de rénovation urbaine et député socialiste du Val d'Oise.
C'est pas en proposant un stage à un jeune que celui qui est abordé par les réseaux de radicalisation va quitter ses réseaux. Il faut toute une logique d'intervention dans ces quartiers. Et là, le président ne répond que par rapport au testing, donc à la discrimination et par rapport à l'emploi.
Autre critique, ces mesures ne s'accompagnent d'aucune obligation, pas d'incitation non plus. Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et député de l'Essonne, ne décolère pas.
Il faut des très fortes incitations fiscales, pas seulement sur les banlieues. Vous avez des territoires ruraux totalement à l'abandon, où la perception ferme, l'hôpital a fermé, tout a fermé. Nous avons tous les crédits qui vont vers les métropoles et tout le reste de la France qui est en train de crever.
Emmanuel Macron sera justement ce soir et demain en Dordogne, déplacement sur le thème des services publics dans les territoires.
Estelle Schmitt, il n'y a pas que les députés qui font grise mine au lendemain du succès tricolore à Moscou. Les petits clubs de football aussi s'inquiètent. La Fédération française de foot, la FFF, va voir son budget largement augmenté. 32,5 millions d'euros de primes pour la victoire des Bleus, sauf qu'à ce jour, il n'y a aucune garantie que cet argent ruisselle jusque dans les caisses des clubs amateurs dont les finances sont pourtant au plus bas. Le reportage en Seine-Saint-Denis de Rémi Brancato.
Au stade de la Motte à Bobigny, Bakary, Yanis, Jordan jouent au foot grâce à la FSGT, la Fédération sportive et gymnique au travail. Des activités gratuites tout l'été pour poursuivre le rêve de Kylian Mbappé, le champion du monde qui a grandi ici en Seine-Saint-Denis.
Même en vivant dans le 93, on peut devenir une star. Moi, il m'inspire parce qu'on peut partir de rien et gagner la Coupe du Monde.
Pourtant, le sport amateur ne se porte pas si bien. Tugdual Lemoviel travaille au comité de volleyball de Seine-Saint-Denis qui a perdu des crédits CNDS, le Centre National pour le Développement du Sport.
Pour nous, au niveau du volleyball, on sait que ça va être une diminution entre 45 et 50%.
Avec des conséquences pour les clubs.
Des éducateurs en moins, du matériel en moins. Puis d'autres clubs feront le choix forcément de faire augmenter les cotisations des enfants, des parents. Ça devient très difficile d'attirer un public qui est en difficulté financièrement pour s'inscrire ou même pour pouvoir pratiquer.
Pour la FSGT et son co-président, le CNDS a diminué l'enveloppe de 35%. Clément Raymond dénonce un paradoxe au moment où la France rayonne.
Avec la Coupe du Monde, avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, on ne devrait pas être en train de batailler, nous, acteurs associatifs du sport, pour finalement essayer de maintenir ou alors de réduire même la baisse de nos subventions. Mais au contraire, on devrait être soutenu et valorisé et défendu.
Quant au foot amateur, les clubs aimeraient profiter de la prime que touchera la Fédération française de football, la FFF, qui indique qu'il faut d'abord faire les comptes des dépenses du mondial avant de chiffrer l'enveloppe restante.
Le reportage de Rémi Brancato.
Loin de ces polémiques sportives et financières, la ville de Jeumont, elle, a le sourire.
Oui, cette commune du nord de la France s'apprête à accueillir son champion du monde, Benjamin Pavard, le latéral droit devenu célèbre pour sa frappe de bâtard, comme dit la chanson, un boulet de canon historique lors du match contre l'Argentine. Pavard devenu la vedette de sa ville d'enfance, mais qui devrait garder la tête froide. Michael Faure était son premier éducateur sportif au club de Lille.
Ça lui ressemble totalement, effectivement, de revenir à la maison. Benjamin est quelqu'un qui est très, très attaché aux valeurs à la fois familiales, mais aussi à ses amis, à ses racines. Donc, je suis absolument pas surpris qu'il puisse faire un tour à Jeumont dès son retour de Russie pour fêter ça, effectivement, avec ceux qui lui sont les plus proches. C'est vraiment quelqu'un de très chaleureux, qui va rester tel qu'il est malgré, eh bien, cette soudaine notoriété. C'est vrai qu'il y a encore peu de temps, personne connaissait Benjamin et du jour au lendemain, il est devenu champion du monde. Mais je sais qu'il va rester véritablement celui qui a toujours été quelqu'un de humble, quelqu'un de super sympa, de super convivial, sans aucun problème.
Et puis ceux qui n'ont pas de champion du monde dans leur ville pourront toujours se consoler avec les timbres collecteurs de la Poste. 4 timbres pour remercier les Bleus, déjà disponibles en ligne ou à partir de demain dans les bureaux de poste. En bref, en économie, après Pimki, c'est une autre enseigne du groupe de prêt-à-porter Apichic qui est menacée. Apichic qui devrait supprimer 466 postes restait fermé 90 magasins des marques Brice, Bisby et Jules. S'agit-il d'un tournant pour Wall Street? L'ancien PDG de Goldman Sachs quitte ses fonctions. Lloyd Blankfein avait incarné l'un des visages de la crise de 2008. « Je ne suis qu'un banquier faisant le travail de Dieu », avait-il lancé en pleine tempête. Il sera remplacé en octobre par David Solomon.
La PMA pour tous et plus vite que ça.
Oui, c'est un peu la tonalité de plusieurs députés de la majorité qui ne veulent pas que la promesse de campagne d'Emmanuel Macron passe aux oubliettes. Alors parmi les plus prompts à mettre la pression, le député La République En Marche, Guillaume Chiche, qui compte déposer demain à l'Assemblée une proposition de loi quitte à bousculer le calendrier du gouvernement. Daniel Messager.
C'est pour ça qu'il s'est présenté, c'est pour ça, dit-il, qu'il a été élu. Le député La République En Marche des Deux-Sèvres, Guillaume Chiche, veut l'égalité.
Aujourd'hui, on a un accès à une pratique médicale, la procréation médicalement assistée, qui est discriminante parce que c'est simplement ouvert aux couples hétérosexuels. Moi, je demande un remboursement, une prise en charge par la sécurité sociale parce que c'est ça, de fait, établir une égalité.
Une proposition de loi émanant d'un député, donc, si elle était inscrite à l'ordre du jour, exclurait ce sujet très polémique d'un projet de loi plus global sur la bioéthique. Peu importe le moyen, ce qui compte pour Guillaume Chiche, c'est d'aller vite.
L'important pour moi, c'est que le débat parlementaire se fasse rapidement. Parce que quand vous lancez des débats comme celui-ci, nous l'avons vu avec le mariage pour tous, vous avez une recrudescence d'actes homophobes. Nous avons une responsabilité quand nous ouvrons un débat comme celui-ci, c'est aussi de protéger les personnes qui seraient les victimes de ce débat. Eh bien, je veux que le débat soit inscrit le plus rapidement possible.
Car les députés qui souhaitent une ouverture de la PMA pour toutes les femmes craignent par-dessus tout une mobilisation des anti avec le spectre de la manif pour tous. Quant au président de la République, favorable. Lors de sa campagne, il est depuis très discret, trop, trouvent certains. Alors pourquoi pas accélérer un peu le calendrier politique?
Daniel Messager, spécialiste santé à France Inter. Et puis autre débat parlementaire déjà en cours. Celui-là, le débat agité autour du projet de loi de révision constitutionnelle. Ce qui ne passe pas, c'est la promesse de l'exécutif de réduire le nombre de parlementaires de 30%. Depuis hier, les amendements se multiplient pour tenter soit de constitutionnaliser le nombre d'élus à l'Assemblée ou de maintenir le chiffre de 577 députés, mais rien n'y fait. Tous ces amendements ont été rejetés.
8h12, France Inter, le journal de Sébastien Logeni. Parmi les retournements de veste spectaculaires de Donald Trump, celui-là mérite peut-être la palme.
Ouais, le président américain était depuis hier la cible de toute la classe politique à Washington, accusé de faiblesse face à Vladimir Poutine. Au cœur de la polémique, l'enquête sur l'ingérence russe lors de la campagne américaine. Pas d'ingérence du Kremlin, avait laissé entendre Trump. Je ne vois aucune raison pour laquelle ce serait la Russie, avait-il dit précisément en conférence de presse à Helsinki. Mais devant la levée de boucliers aux États-Unis, demi-tour du président Trump, sa langue aurait fourché. À New York, Marco Voltaire.
Tout est dans la particule négative. De retour à la Maison-Blanche, plus de 24 heures après sa conférence de presse avec Vladimir Poutine, Donald Trump, les yeux collés sur sa feuille, a donc expliqué ceci.
Je dois dire que quand je suis revenu, je me suis demandé qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a tant de bruit. Alors on m'a donné une retranscription de ce que j'ai dit dans une phrase clé de mes remarques. J'ai dit « serait » au lieu de « ne serait pas ».
Pour faire simple, là où on entendait le président américain contredire ses propres services de renseignement à côté de Vladimir Poutine, avec le correcteur, Donald Trump admet désormais que la Russie s'est ingérée dans l'élection de 2016. De quoi donner la migraine aux commentateurs qui ont questionné la sincérité de ce rétropédalage, car Donald Trump avait déjà tweeté près d'une dizaine de fois depuis le sommet d'Helsinki, sans pour autant revenir sur ses propos. Retour laborieux donc pour le président américain après une tournée européenne pour le moins animée. Le chef des Républicains au Sénat a d'ailleurs cherché à rassurer l'Europe, qualifiée d'ennemi par le président il y a quelques jours. Les États-Unis soutiennent l'OTAN, a dit Mitch McConnell. Les pays de l'Union européenne sont des amis des États-Unis. À New York, Marco Voltaire pour France Inter.
En bref, à l'étranger, le pouvoir au Nicaragua qui reprend la main face aux opposants. Violente intervention hier des forces anti-émeutes et des paramilitaires dans les rues de la ville rebelle de Masaya, près de la capitale Managua. Bilan au moins 2 morts. On y revient dans la chronique d'Anthony Bélanger, juste après le journal. Et puis en Syrie, encore une ville sous les bombes de l'armée de Bachar el-Assad après la capitulation des rebelles de Deraa, le berceau des manifestations de 2011. C'est la ville de Nahwa, juste à côté de Deraa que le régime essaye de faire plier 100 000 habitants visés par d'intenses raids aériens. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, des dizaines de personnes ont été tuées.
La Syrie au cœur d'un film rare qui sort aujourd'hui dans les salles de cinéma.
Le film d'une réalisatrice syrienne, Gaya Jiji, mon tissu préféré. On pourrait s'attendre à ce que son film parle du conflit et que du conflit. Mais le regard de cette cinéaste est différent. C'est à dessein que la réalisatrice situe le récit il y a quelques années, au tout début, quand la situation était en train de basculer dans son pays. Eva Bétan.
Pour le monde, d'une certaine manière, la Syrie est devenue synonyme de longue guerre et de réfugiés. Gaya Jiji, réalisatrice syrienne, redonne sa complexité et par là même son humanité à son pays, si l'on peut dire, avec cette chose très simple. Elle parle de personnes, de vie. Gaya Jiji.
L'image maintenant qu'on a des gens en Syrie, c'est l'image des gens qui font rien dans leur vie à part d'attendre des roquettes en fait. Non, les gens, c'est vrai, dans des conditions très difficiles, continuent à être amoureux, ils continuent à vivre.
Son histoire se situe au tout début, en 2011, moment charnière. Il y a encore l'espoir d'une évolution démocratique, mais les bombardements commencent. Un immeuble, une famille, une jeune fille, ses rêves, sa sexualité, ses frustrations, un mariage arrangé peut-être, vie presque ordinaire, alors que par la télévision arrivent les premières images de destruction. Qu'arrivera-t-il à cette jeune fille plus tard? Nul ne le sait. Mais le cinéma a fait d'elle un personnage subtil, il l'a sortie de l'abstraction.
Le film de la Syrienne Gaya Jiji, mon tissu préféré, l'un des films à l'affiche aujourd'hui, ce mercredi.
Merci beaucoup Sébastien Logénis.